Laudetur Jesus Christus.
Essayons de ne perdre aucune occasion d'aimer. Les mots de Léon XIV, hier avant la prière de l'Angélus, le pape est revenu sur le don inestimable de la vie éternelle, compte rendu à suivre au début de ce journal. Léon XIV qui a lancé un appel à ne pas oublier le peuple haïtien, toujours pris dans la spirale des violences. Des mots, nous l'entendrons, qui encouragent l'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Mésidore. Dans l'actualité internationale, la crise humanitaire toujours aiguë dans la bande de Gaza, alors que le plan d'occupation israélien de l'enclave suscite la consternation internationale. Nous reviendrons aussi sur les appréhensions des Ukrainiens à quelques jours de la rencontre en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et puis dans notre dossier, ce matin, 4 ans après le retour des talibans à Kaboul, gros plan sur la situation des femmes afghanes qui sont devenues quasi invisibles. Notre invitée Hamida Aman, journaliste, entrepreneuse, elle est à la tête de Radio Begum, une radio destinée aux femmes et basée à Kaboul.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour. Devant plusieurs milliers de fidèles rassemblés sous le chaud soleil de la place Saint-Pierre, le pape a présidé hier la prière de l'Angélus depuis la fenêtre du palais apostolique. Avant cela, Léon XIV est revenu sur l'évangile de ce dimanche tiré de Saint-Luc, où Jésus invite ses disciples à vendre ce qu'ils possèdent pour le donner en aumône. En aumône, le compte-rendu est signé Christian Lossambé.
À travers ces mots, le Christ exhorte à ne pas garder pour nous les dons que Dieu nous a faits, mais à les utiliser généreusement pour le bien des autres, en particulier ceux qui ont le plus besoin de notre aide, a expliqué le pape. Il ne s'agit pas seulement de partager les biens matériels dont nous disposons, mais de mettre en jeu nos capacités, notre temps, notre affection, notre présence, notre empathie. Le don de Dieu, a poursuivi l'évêque de Rome, a besoin d'espace, de liberté, de relations pour se réaliser et s'exprimer. Il a besoin d'amour qui seul transforme et ennoblit tous les aspects de notre existence, nous rendant toujours plus semblables à Dieu. Léon XIV a souhaité faire comprendre aux fidèles combien le don est une chose qui élève. Citant saint Augustin, il a expliqué que ce que l'on reçoit, plus que l'or et l'argent, est bien la vie éternelle.
In familia, in parrocchia, a scuola.
C'est pourquoi dans la famille, dans la paroisse, à l'école et sur le lieu de travail, où que nous soyons, essayons de ne perdre aucune occasion d'aimer, a-t-il exhorté. Avant l'Angélus, le Saint-Père a ainsi invité à confier ce désir et cet engagement à la Vierge, qu'elle nous aide à être dans un monde marqué par tant de divisions, des sentinelles de miséricorde et de paix, comme nous l'a enseigné saint Jean-Paul II, et comme nous l'ont montré si bien les jeunes venus à Rome pour le jubilé, a-t-il conclu.
I giovani venuti a Roma per il giubileo.
Christian Lossambé, le Léon XIV qui se rendra de nouveau à Castel Gandolfo, ce sera du 13 au 17 août prochain. Après l'Angélus, le pape a demandé à la communauté internationale de soutenir le peuple haïtien de plus en plus désespéré. Ce sont ces mots, Haïti qui s'enfonce chaque jour un peu plus dans la violence. En témoigne cet enlèvement il y a 8 jours de 9 personnes dans un orphelinat près de Port-au-Prince, parmi lesquels une missionnaire et un enfant handicapé de 3 ans. Les mots du pape qui sont un encouragement et un baume pour de nombreux Haïtiens. C'est ce que nous explique Monseigneur Max Leroy Mésidore, l'archevêque de Port-au-Prince.
Nous remercions le Saint-Père pour ce cri en faveur du peuple haïtien, pour cet appel à la communauté internationale à se pencher davantage et concrètement sur la situation d'Haïti. Cet appel traduit la sollicitude du Saint-Père pour les peuples en difficulté, pour les victimes d'injustice, de guerre, de violence. Le pape Léon relaie la voix de l'Église d'Haïti, qui ne cesse d'appeler à la fin de la violence, à une prise de conscience de la part de ceux qui sèment le deuil dans les familles et de toutes les personnes qui les soutiennent d'une façon ou d'une autre. Ce cri du Saint-Père doit résonner d'abord au cœur des Haïtiens. C'est à nous qu'il revient en premier d'organiser le pays en ayant un projet commun, en faisant la promotion du dialogue dans la non-violence et la justice. Pour qu'il y ait dialogue, pour qu'il y ait conférence nationale, il faut que les âmes se taisent.
Monseigneur Max Leroy, Mésidor, l'archevêque de Port-au-Prince, qui réagissait à l'appel du pape Léon XIV hier. Et pour retrouver toute l'actualité du pape et du Vatican, une seule adresse, bien sûr, vaticannews.va. Dans l'actualité internationale, cette mise en garde des Nations Unies contre une nouvelle calamité dans la bande de Gaza que consisterait le plan israélien de contrôle de la ville de Gaza. Hier, devant la presse, Benjamin Netanyahou, depuis Jérusalem, a présenté son plan d'annexion partielle de l'enclave palestinienne. Selon lui, 70 à 75% de Gaza est sous contrôle militaire israélien. Ce projet suscite un tollé dans la communauté internationale alors que le blocus humanitaire reste quasi total. Au moins 217 personnes sont mortes de faim et de soif en quelques semaines, selon les services médicaux palestiniens. ONU et ONG continuent d'exiger l'ouverture de tous les points de passage terrestres pour faire entrer l'aide humanitaire internationale en flot continu et sans entrave. Les précisions à Jérusalem de Valérie Ferrand.
Des centaines d'enfants et d'adultes continuent d'être tués ou blessés chaque jour par l'armée israélienne dans une bande de Gaza où l'aide humanitaire internationale n'entre qu'au compte-gouttes. Les soldats continuent d'ouvrir le feu sur les milliers de civils affamés qui se rendent notamment sur les sites de distribution d'aide de la société privée créée par Israël et les États-Unis. Les largages de colis alimentaires par voie aérienne se sont également poursuivis ce week-end, mais ils restent inefficaces pour enrayer la famine, est dangereux. Un enfant et un adolescent ont en effet été tués par la chute de colis qui les ont écrasés. La puissance occupante israélienne a par ailleurs autorisé depuis quelques jours des commerçants palestiniens à acheminer des camions chargés de produits de première nécessité sur les marchés locaux, ce qui a fait baisser les prix qui restent néanmoins exorbitants. Les services médicaux sont submergés par le nombre de bébés, d'enfants et de personnes âgées en train d'agoniser par manque de vivres et de médicaments. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Dans la société israélienne, la colère monte également contre les plans du gouvernement Netanyahou. Les familles des otages encore retenus à Gaza appellent à la grève générale dimanche prochain. Et puis sur un plan diplomatique, l'Australie va à son tour reconnaître l'État palestinien lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies en mois de septembre à New York. Annonce faite ce lundi matin par le Premier ministre Anthony Albanese. L'Australie qui rejoint des pays comme la France ou le Canada. À la une de l'actualité également, la rencontre très attendu vendredi prochain en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur l'avenir de la guerre en Ukraine. Un face-à-face voulu par le président américain, mais sans une présence annoncée des Ukrainiens. Pour Kiev, rien n'a changé pourtant sur le terrain, ni les frappes quotidiennes contre les civils, ni les offensives russes le long de la ligne de front, et encore moins les demandes de Moscou à Trump qui relèvent d'une capitulation à laquelle l'Ukraine n'est pas prête. Parmi les exigences russes, il y a notamment la cession de territoires ukrainiens non contrôlés par la Russie. Un non-sens selon les Ukrainiens. Les précisions de notre correspondante à Kiev, Emmanuel Chaz.
Moscou demanderait aux troupes ukrainiennes de zones encore non occupées, comme le tiers de la région de Donetsk qui reste sous contrôle ukrainien, une région d'où Kiev a réussi à contenir les invasions russes de 2014 et 2022. Et si les Russes ont réussi à encercler la ville de Pokrovsk dans cette même région, ville réduite en poussière désormais, ils ne s'y sont toujours pas établis après plus d'un an de combats acharnés. Cela est représentatif des difficultés rencontrées par les Russes dans leurs avancées qui semblent inexorables, mais qui sont extrêmement lentes et coûteuses en personnel et en équipement. De même, Kiev n'a aucune raison en l'état d'abandonner les grandes villes de Sloviansk et Kramatorsk, toujours peuplées par des dizaines de milliers d'Ukrainiens, dont des déplacés internes des communes voisines. Au-delà de la protection de cette population, céder ces territoires libres à Moscou offrirait une parfaite plateforme de lancement à la Russie pour toute nouvelle offensive dans le futur sur les régions voisines de Kharkiv, Zaporizhia et Soumy. À Kiev, Emmanuel Chaz pour Radio Vatican.
Et les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent en urgence ce lundi avant le sommet Trump-Poutine. Les États-Unis ont le pouvoir de contraindre la Russie à négocier sérieusement, a rappelé ce week-end la chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas. Un mot du Tchad avant d'écouter notre dossier où l'ancien Premier ministre et opposant Success Masra a été condamné ce week-end à 20 ans de prison ferme. Il a été reconnu coupable de diffusion de messages à caractère haineux et xénophobe et de complicité de meurtre dans le cadre d'un drame où 42 personnes avaient été tuées au mois de mai dans un conflit intercommunautaire. Le dossier est vide, dénoncent ses avocats. les images de la chute de Kaboul et des centaines de milliers de personnes cherchant à fuir le pays via l'aéroport le 15 août 2021 sont encore dans toutes les mémoires. Après une offensive lancée en mai, les talibans reprennent le pouvoir en Afghanistan 20 ans après leur chute. Les 28 millions de femmes et de jeunes filles savent que leur avenir est désormais condamné. Les chefs talibans se voulaient d'abord rassurants, notamment vers la communauté internationale, avant que les lois et les interdictions sur les droits des femmes ne soient promulguées presque quotidiennement. Plus de 80 décrets et édits mis en place depuis 2021 pour démanteler ce qu'il restait des droits des femmes. La fin de l'enseignement secondaire, puis la fin de l'école après l'âge de 12 ans. Le murage des fenêtres où l'on peut voir des femmes. Interdiction de se rendre dans les parcs. Retour de la lapidation pour n'en citer que quelques-uns. Alors aujourd'hui, 4 ans après le retour des talibans à Kaboul, à quoi ressemble le quotidien d'une femme afghane? Nous avons posé la question à Hamida Aman, journaliste, entrepreneuse. Elle est à la tête de Radio Begum, une radio destinée aux femmes dans la capitale, Kaboul.
Malheureusement, le quotidien des femmes en Afghanistan, ces 4 dernières années, n'a fait qu'être fermé au monde et son univers s'est restreint au fur et à mesure. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, les femmes n'ont toujours pas le droit de travailler dans l'administration, qui était quand même le premier employeur du pays. Ils n'ont pas le droit, pour la plupart, de pratiquer beaucoup de métiers dans le secteur public. Elles ne peuvent plus être juges, les salons de coiffure ont été fermés, elles n'ont plus l'accès au bain public, au parc, tous les lieux où on pouvait sociabiliser et se réunir leur ont été interdits. Elles sont contenues à leur foyer. Il existe tout de même des secteurs dans lesquels elles peuvent travailler, elles peuvent évoluer, c'est le secteur privé, c'est-à-dire elles montent des petits business, des ventes de produits pour pouvoir avoir un petit revenu et apporter un peu de beurre dans les épinards et un peu d'aide dans la famille. Et la situation économique, elle est déplorable pour tout le monde. Le chômage, le manque de revenus est drastique dans tout le pays. Et les femmes ne voient pas d'amélioration. Au contraire, là, l'année dernière, ça a été le coup de grâce lorsque les autorités ont aussi interdit les filles d'accéder aux écoles d'infirmières et de sages-femmes. Ce dernier unique bastion qui leur était encore autorisé leur a été fermé, ce qui est dramatique parce que est extrêmement préoccupant pour l'avenir, parce que que vont devenir les femmes? Qui va soigner ces femmes, sachant que c'est un pays extrêmement conservateur et il est impensable qu'une femme soit soignée pour un homme, surtout pour être accouchée ou pour des problèmes gynécologiques.
Il faut préciser qu'en plus de voir leurs droits essentiels petit à petit supprimés, les femmes afghanes subissent au quotidien des persécutions.
Et ces 2 derniers mois, le contrôle du ministère des Vices et Vertus n'a fait que se renforcer. Actuellement, on me rapporte que dans les rues de Kaboul, par exemple, les patrouilles de cette police des mœurs s'est renforcée et contrôle de plus en plus les jeunes femmes et les intimide, les arrête, les amène au commissariat. Et c'est les pères et les frères qui doivent venir les chercher. Et bien sûr, on les menace et on leur fait la morale. Et bien sûr, c'est des moments cauchemardesques pour ces femmes. C'est ce genre d'opération qui fait que la population est traumatisée et reste silencieuse.
Est-ce que la condition des femmes fait débat dans la société afghane et notamment parmi les oulémas, les chefs religieux?
La fermeture des écoles fait beaucoup plus débat. Ça, effectivement, c'est un élément qui fait que beaucoup de talibans, même au sein du groupe, sont réticents et ne comprennent pas. Et il y a eu des voix qui se sont élevées ces 4 dernières années pour exprimer leur désaccord et le fait que la charia ne stipule pas que les filles ne doivent pas aller à l'école. Donc, il y a eu des voix qui ont résonné, mais malheureusement sans grand effet.
Dans ce tableau très noir, où règne finalement un apartheid de genre, voit-on au moins une faible source d'espérance ?
Le seul soulagement de la population de ces 4 dernières années, c'est d'avoir moins de conflits, moins de morts. Ça, c'est quelque chose pour un pays qui est en guerre depuis plus de 40 ans et qui connaît des troubles incessants de guérillas, d'attentats, etc. Ces 4 dernières années sont un peu des moments de répit pour la population, au moins à ce niveau-là.
Interrogée par Marine Henriot, Hamida Aman, journaliste entrepreneuse à la tête de Radio Begum, une radio destinée aux femmes à Kaboul en Afghanistan, était ce matin l'invitée de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information du pape, de l'Église et du monde, ce sera bien entendu à 13h en direct de Rome. Je vous souhaite d'ici là une excellente journée.